Donc on va lire dans 1 Samuel chapitre 17. Je pense que c'est important qu'on lise le texte parce que cette histoire fait partie des nombreuses histoires de la Bible que tout le monde connaît ou que tout le monde croit connaître. Et c'est un petit peu dangereux parfois parce qu'on a des souvenirs et on pense qu'on connaît. C'est peut-être l'histoire la plus célèbre de l'Ancien Testament d'ailleurs. C'est l'histoire que même les non-chrétiens connaissent. On la cite souvent même en politique. Donc c'est important qu'on lise le texte plutôt que de s'appuyer sur nos souvenirs. Donc 1 Samuel 17. Les Philistins rassemblèrent leurs troupes pour la guerre. Ils se rassemblèrent à Soco, qui appartient à Juda. Ils dressèrent leur camp entre Soco et Azekah à Éphèse d'Amine. J'ai regardé, c'est à l'ouest de, à peu près à la hauteur de Jérusalem, à l'ouest, au pied de la montagne, côté occidental. Voilà. Ils dressèrent leur camp dans la vallée du Térébinthe et ils se rangèrent en ordre de bataille face aux Philistins. Les Philistins étaient du côté de la mer et eux du côté de la montagne. Les Philistins se tenaient dans la montagne d'un côté et Israël se tenait dans la montagne de l'autre côté. La vallée était entre eux. Donc voilà, c'est clair. Un champion sortit alors du camp des Philistins et s'avança. Il se nommait Goliath. Il était de Gath, il avait une taille de 6 coudées et un empan. Il avait sur la tête un casque de bronze et portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait 5000 sicles. Il avait aux jambes des jambières de bronze, un javelot de bronze en bandoulière. Le bois de sa lance était comme l'ensouple des tisserands et la pointe de sa lance en fer pesait 600 sicles. Le porteur du grand bouclier marchait devant lui. Il s'arrêta et cria aux lignes d'Israël. « Pourquoi sortez-vous en ordre de bataille? Ne suis-je pas moi, le Philistin, et vous, n'êtes-vous pas les gens de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il réussit à me battre, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui, si je le bats, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je lance en ce jour un défi aux lignes d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent terrifiés. Ils avaient très peur. Or, David était fils de cet Éphratite de Bethléem de Juda nommé Jessé, qui avait 8 fils et qui, au jour de Saül, était un vieillard. Les 3 fils aînés de Jessé étaient partis pour la guerre derrière Saül. Voici le nom de ses 3 fils qui étaient partis à la guerre, Eliab le premier-né, Abinadab le deuxième et Shammah le troisième. David était le plus jeune. Comme les 3 aînés étaient partis derrière Saül, David allait chez Saül et il revenait pour faire paître le troupeau de son père à Bethléem. Le Philistin s'avançait matin et soir. Il se présenta ainsi pendant 40 jours. Jessé dit à son fils David, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôti, ces 10 pains, je te prie, et cours les porter à tes frères dans le camp. Tu apporteras aussi ces 10 fromages aux chefs de leur fratrie. Tu verras comment vont tes frères, tu prendras un gage de leur part. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée du Térébinthe et ils font la guerre aux Philistins. » Tout au moins, ils se préparent à le faire. David se leva de bon matin. Il laissa le troupeau à un gardien, prit sa charge et partit comme Jessé le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée partait pour le front et lançait des acclamations de guerre. C'est à peu près tout ce qu'il pouvait faire. Israël et les Philistins se rangèrent en ordre de bataille, ligne contre ligne. David se défit de son équipement, le laissa à celui qui gardait le matériel et courut vers le front. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Tandis qu'il parlait avec eux, le champion des Philistins monta de leur ligne. Il se nommait Goliath. C'était un Philistin de Gath. Il tint le même discours et David l'entendit. À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël reculèrent. Ils avaient très peur. Les hommes d'Israël disaient « Avez-vous vu monter cet homme ? C'est pour défier Israël qu'il monte. À celui qui le tuera, le roi accordera de grandes richesses. Il lui donnera sa fille et il exemptera d'impôts sa famille en Israël. » David dit aux hommes qui se tenaient avec lui « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et relèvera le défi lancé à Israël ? Mais qui est donc ce Philistin, cet incirconcis qui ose défier les troupes du Dieu vivant ?» Le peuple, répétant les mêmes paroles, lui dit « Voici ce qu'on fera pour celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler aux hommes, se mit en colère contre David. Il dit « Mais pourquoi es-tu descendu ? Et à qui as-tu laissé ce petit troupeau dans le désert ? Je te connais bien, moi, ton arrogance et ton mauvais cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit « Mais qu'ai-je donc fait ? En voilà une affaire. » il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et lui posa les mêmes questions. On lui répondit comme la première fois. Les hommes qui avaient entendu ce que disait David en informèrent Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, « Mais que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec ce Philistin. » Saül dit à David, « Mais tu ne peux pas aller vers ce Philistin pour te battre avec lui. Tu n'es qu'un jeune garçon. Lui, c'est un homme de guerre, depuis sa jeunesse. » David dit à Saül, « Je faisais paître le troupeau de mon père. » Quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je lui courais après, je le frappais et je délivrais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la barbe, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que j'ai abattu le lion et l'ours. Ce Philistin, cet incirconcis, il sera comme l'un d'eux. Car, et ça c'est important, il a défié les troupes du Dieu vivant. David dit encore, le Seigneur qui m'a délivré de la griffe du lion et de la griffe de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alors Saül dit à David, va, et que le Seigneur soit avec toi. Saül revêtit David de ses propres habits. Il plaça sur sa tête un casque de bronze, le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül à sa ceinture, par-dessus ses habits, et il essaya vainement de marcher. Il n'était pas entraîné. Il dit alors à Saül, mais je ne peux pas marcher avec tout ça, car je ne suis pas entraîné. David s'en débarrassa. Il prit son bâton, se choisit 5 pierres polies dans l'oued et les mit dans son sac de berger, dans sa besace, puis sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, précédé de l'homme qui portait son grand bouclier. Le Philistin toisa David avec mépris, ne voyant en lui qu'un jeune garçon roux, de belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien que tu viennes contre moi avec des bâtons ?» Puis le Philistin maudit David par ses dieux. Enfin, le Philistin dit à David, « Viens à moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens à toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. En ce jour, le Seigneur te livrera à moi. Je te frapperai, je te couperai la tête. En ce jour, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et ainsi, toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Ainsi, toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que le Seigneur sauve, car le combat appartient au Seigneur, et c'est lui qui vous a livré à nous. » Aussitôt, le Philistin se remit à s'approcher de David. David se dépêcha de courir vers le front, à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gypsière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. La pierre pénétra dans le front du Philistin qui tomba face contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le mit à mort sans avoir d'épée à la main. David courut près du Philistin, prit son épée, la tira du fourreau et le tua. Il lui coupa la tête avec l'épée. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Aussitôt, les hommes d'Israël et de Juda lancèrent des acclamations. Ils poursuivirent les Philistins jusqu'à l'entrée de la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent sur le chemin de Charaïm jusqu'à Gath et Écron. Après avoir poursuivi les Philistins avec ardeur, les Israélites revinrent et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin, la porta à Jérusalem. Il la mit dans sa tente, les armes du Philistin. Voilà, donc une histoire qu'on connaît bien. Et c'est pas rare que même dans les journaux, les commentaires politiques, on entende dire « Ah ça, c'est David contre Goliath ». C'est une histoire que les non-croyants utilisent. Et je l'ai entendu beaucoup aussi dans le business, en économie. « Oh, ben c'est David contre Goliath, ils s'en sortiront pas, etc. » Voilà. Bon, c'est une histoire qu'on connaît donc très très bien. Mais on va juste voir quelques petits points, je pense, qui peuvent nous encourager, qui peuvent mieux comprendre ce qui s'est passé entre David et Goliath. Parce que parfois, on a un petit peu l'impression que c'est magique. Hein, le petit méprisé qui va remporter la victoire contre le grand puissant. Voilà, à cause de la poudre de perlimpinpin. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Il faut effacer cette image parce qu'elle n'est pas juste. On est dans une autre configuration qui est beaucoup plus proche de la réalité. Ce n'est pas magique, la rencontre de David et Goliath. Il y a toute une préparation de Dieu derrière. Alors de nouveau, c'est la guerre avec les Philistins. Les deux armées sont face à face, donc comme je dis, entre la mer et la montagne, à peu près à la hauteur de Jérusalem. Alors l'événement le plus curieux et plus inhabituel, c'est qu'un homme représentant les Philistins va s'avancer et va lancer un défi aux Israélites pour qu'un homme d'Israël vienne se battre contre lui. Ça, c'est une des rares fois où ça se passe dans l'histoire biblique. C'était pas tellement dans les mœurs du Moyen-Orient. Beaucoup de commentateurs pensent que c'est quelque chose qu'ils ont attrapé chez les Grecs. Les Grecs avaient beaucoup plus cette mentalité qu'un homme se batte contre un autre au nom d'un peuple. Donc, on savait que les Philistins étaient en contact avec la Grèce pour plusieurs raisons, je n'entrerai pas dans l'histoire. Donc, c'est probablement des Grecs qu'ils ont retenu cette idée qu'un homme vienne lancer un défi pour qu'un autre se batte contre lui. Et l'issue du combat était considérée comme le verdict des dieux. C'est-à-dire que celui qui gagnait, c'est celui qui était soutenu par les dieux grecs, bien sûr. Cette façon de faire, donc, est probablement dérivée des coutumes militaires grecques. Alors, le problème, là, c'est la taille du champion philistin. Grâce aux découvertes archéologiques, on a trouvé que la coudée faisait environ 44 cm. Parce qu'on a des textes qui nous permettent de déduire ça. Donc, il mesurait 2,92 m autour. Voilà. Alors, vous allez dire, c'est pas possible. Alors, après quelques recherches, voilà, en 1830, on a découvert en Inde un squelette qui faisait 3 mètres, un squelette humain. Et en 1879, on exhibait en France, je crois, un Chinois qui mesurait 2,79 m. Donc, il y a des exceptions. Il y a des gens très grands, il y a des exceptions. Donc, parce que souvent, on va dire, ah oui, mais Goliath, c'est un mythe, c'est un conte de fées. Bah, écoutez, là, on n'en est pas très loin avec notre Chinois et notre squelette indien. Donc, c'est pas du tout impossible. En plus, les textes antiques rapportent que autour de Gaza, actuellement Gaza, il y avait des peuplades très grandes. Les Anakim, c'est des gens très, très grands. De la même façon qu'en Afrique, vous avez aussi des gens très très grands et vous avez aussi les pygmées. Il y a des différentes espèces humaines en fait, hein, qui font que certains sont plus grands que d'autres. Et c'est pas du tout impossible, donc on n'est pas dans le conte de fées. Alors pour traduire un peu les poids et les mesures là de notre texte, la cuirasse de Goliath pesait environ 60 kg et sa lance, on l'estime à 7,2 kg. Ben, il était bien protégé, Goliath. Hein, qui est-ce qui aurait osé l'engager dans un combat singulier? Il n'y avait pratiquement pas d'accès. Vous avez vu que non seulement lui, il avait cette cuirasse, ses jambières, etc. Mais en plus, il avait quelqu'un qui portait un bouclier devant lui. Donc, il était plus que bien protégé. Alors, certains commentateurs disent, ouais, les Israélites avaient peur parce qu'ils manquaient de foi. Ok. Ils avaient peur parce qu'ils manquaient de foi. Mais imaginons-nous à leur place. Qui va se lancer à l'assaut d'un pareil bonhomme? Pas assez de foi dans les promesses de Dieu, oui. Mais enfin, quand ça dure 40 jours comme ça et qu'on pense que c'est l'autre qui va y aller, ça peut durer longtemps, hein. On dit, ben, y a bien quelqu'un qui va trouver, pas moi, mais l'autre. Et vous savez, à partir du moment où on commence à dire, pas moi, mais l'autre, eh ben, il ne se passe rien. C'est le problème. Hein. On pense toujours que c'est l'autre qui va faire le travail. Mais Dieu avait permis cette situation parce que lui, de son côté, il n'était pas à court. Il avait déjà préparé un homme pour cet affrontement spécial. Et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. On l'a remarqué plusieurs fois, hein, déjà dans l'histoire de Samuel, on l'a remarqué aussi dans l'histoire de Saül. Dieu prépare les choses à l'avance. Il n'est jamais pris de court. Dieu n'est pas là en train de se dire « Oh, voilà une situation nouvelle que je ne sais pas gérer. » Il avait déjà tout préparé à l'avance. Et ayant tout prévu, on va s'apercevoir que Jessé va envoyer son fils David pour porter le ravitaillement à ses frères qui sont sur le front. Et qui font la guerre aux Philistins, tout au moins, c'est ce qu'ils disent, parce que vous avez vu, tout ce qu'ils font, c'est crier en fait. Hein, moi, si j'ai bien lu... Ils font des acclamations, ils s'entraînent, ils crient, et puis ils descendent vers le champ de bataille, et puis après ils sont terrorisés, ils bougent plus. Donc David va se trouver chargé tout un tas de choses à manger pour donner à ses frères. Ça vous rappelle rien? Il n'y a pas un autre jeune homme qui avait été envoyé donner à manger à ses frères? Joseph. C'est marrant, c'est la deuxième fois qu'on voit ça dans l'Ancien Testament. Et dans les deux cas, la mission qui est quand même plutôt banale, aller porter les sandwichs des frères, va mener les deux jeunes gens à leur destinée. Bizarre. Et dans les deux cas, ils sont mal vus par leurs frères. Donc le papa les envoie pour une mission suicide, on va dire, une mission où ils vont se faire traiter de tous les noms. Et c'est ça qui va les mener à leur destinée. Ouh, les chemins de Dieu sont étranges. Avec humour, d'ailleurs, on pourrait se demander si prendre soin de ses frères, et surtout des frères pas sympas, n'est pas un passage obligé pour entrer dans sa destinée. Je suis allée jusque-là. Eh bien, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui, parce que quand on lit les témoignages de serviteurs de Dieu ou de missionnaires qui ont été fidèles, on constate souvent que leurs premiers services dans l'Église n'ont pas été faciles. Ils ont été mal vus, mal compris, on les considérait trop jeunes, trop audacieux ou trop timides, enfin toujours trop quelque chose. Et ça n'a pas été facile. Les frères de l'Église n'ont pas su les reconnaître, n'ont pas su reconnaître leurs dons, leurs bonnes dispositions, n'ont pas su les encourager, ou peut-être parfois un peu les canaliser, s'ils avaient trop d'énergie. Mais ils se sont opposés, ils ont critiqué, ils ont freiné et ils ont méprisé. On peut se demander, mais pourquoi Dieu permet qu'il y ait ce temps de rejet en quelque sorte? Alors, il ne faut pas le justifier pour autant, je pense qu'on n'est pas appelé à faire ça en tant que frère dans l'Église, mais on constate que souvent ça a été le cas. Et Dieu fait naître une génération nouvelle, pleine de zèle, prête à servir, et puis, quelque part, ils ont failli passer à côté en leur attribuant toutes sortes de défauts. Et ça, on lit ça dans les récits des missionnaires. Je pense à cette merveilleuse missionnaire en Chine, l'auberge du sixième bonheur, c'est ça? Ça n'a pas été drôle, hein? Personne n'a voulu l'aider, etc. Oh, elle était prétentieuse, elle était... Voilà. Et combien on a d'exemples comme ça, où les frères de l'Église, l'Église en général, n'a pas collaboré, au contraire. Mais ces frères et sœurs étaient, les jeunes frères et sœurs, donc ceux dont je parle là, étaient des gens enseignables et patients. Et ils ne se sont pas laissés piéger par les offenses. Et du coup, Dieu a pu se servir efficacement d'eux. Et c'est un peu un test, je pense aussi. Quelquefois, la vie dans l'église locale n'est pas toujours facile. Parce qu'on est tous plein de défauts. On n'est pas des anges. Et du coup, la vie n'est pas toujours facile et beaucoup de gens pourraient se décourager. Mais si la victoire a été gagnée là, elle sera gagnée ailleurs. Et je pense, c'est pour ça que je dis avec humour, on peut se demander si prendre soin de frères pas sympas n'est pas un passage obligé pour entrer dans sa destinée. Peut-être que oui. Peut-être que oui, parce que vous savez, la chose la plus importante qu'on apprend dans ces moments-là, c'est ne pas se laisser piéger par l'offense. Vous avez tous, ou beaucoup ont lu le livre de John Beverley, l'offense, piège de Satan, c'est ça? Voilà. L'arme cachée de Satan, voilà. C'est vraiment ça. C'est, si on prend l'offense, on peut être cassé. Et on a vu beaucoup de gens dire, oui, mais les églises blessent les gens. Oui, oui, oui. Et je pense que c'est aussi un test. Si on ne prend pas l'offense, si on ne la ramasse pas, hein, si on ne s'en revêt pas, Dieu va pouvoir se servir de nous efficacement. Ceci étant, ce n'est pas une raison pour offenser les autres. Je crois qu'on est déjà, nous ici, et qu'on continue à être une église qui cherche à encourager les ministères débutants, dans quelque domaine que ce soit. Et c'est bien, mais sachons voir avec les yeux de Dieu. Les jeunes, les moins jeunes qui se lèvent pour servir Dieu. Qui n'est pas à souffrir en servant leurs frères dans l'église. Voilà, c'est ça l'idée. C'est sûr qu'on ne fait pas les choses parfaitement, on les fait toujours voilà, comme on peut, mais que les jeunes qui commencent à servir le Seigneur dans différents domaines, qui n'aient pas à souffrir dans leur service, même si c'est un passage, quelquefois, mais cherchons à leur faciliter la tâche et à ne pas faire comme les grands frères, que de Joseph ou de David. Pour les plus jeunes, par contre, je dirais, apporter le ravitaillement aux soldats, c'est pas forcément très folichon. Mais Dieu se sert de ces petits services qu'il demande. À celui qui est fidèle dans les petites choses, sera confié de plus grandes. Et chaque fois qu'on fait des petites choses dans l'église, des choses qui semblent insignifiantes, Dieu le voit. Et il voit notre fidélité, même si les gens ne le voient pas. Hein, combien de fois on arrive dans l'église, elle est toute belle, toute propre. On ne sait pas qui l'a fait, mais Dieu le sait, Dieu le voit. Et au passage, je remercie tous les gens qui régulièrement s'attaquent au problème de la propreté de l'église. Merci beaucoup, parce que, en tout cas, nous on le voit, on ne sait pas toujours qui c'est, mais Dieu le sait. Donc, soyons fidèles dans les petites tâches, même si ce n'est pas très folichon. Le Seigneur voit notre fidélité dans les petites choses. C'est aussi très important. Une chose importante avec David, c'est qu'aux accusations d'Éliab, David répond simplement, j'étais étonnée de sa réponse, « Mais qu'ai-je donc fait ?» En voilà une affaire. Alors, suivant les traductions, vous avez différentes choses. Mais en gros, ben voilà, mais qu'est-ce que vous avez après moi? Puis c'est tout. Il ne cherche pas à rentrer dans des discussions, se défendre. Et il va poser la même question à d'autres gens. Voilà. Il ne se laisse pas piéger par l'offense. Il y avait de quoi quand même. Vous vous rendez compte de quoi il l'accuse, l'autre? Il lui dit, ah, je sais pourquoi tu es descendu, tu as abandonné ton troupeau dans le désert. Il lui pose même pas la question, l'as-tu confié à quelqu'un? Il assume tout de suite qu'il l'a abandonné. Je connais ton arrogance, ton mauvais cœur. Allez, pouf, c'est réglé. Hein? Eh bien, il ne relève pas l'offense. Et je crois que Dieu nous appelle à ça, ne pas relever l'offense. Ça ne donne pas raison à ceux qui offensent, bien sûr, mais pourquoi se gâcher la vie? Pourquoi se gâcher la vie? Et malgré la méchanceté d'Éliab, son manque de reconnaissance, ses accusations gratuites, il passe à la suite. Que Dieu nous donne cette sagesse, parce que c'est Dieu qui justifie. Et ce serait dommage d'abandonner le Seigneur ou le service de Dieu dans l'Église à cause de l'attitude de grands frères qui ne se comportent pas forcément bien. Parce que c'est là que la destinée commence, dans ces services-là. C'est là que ça commence pour David. Imaginez qu'il ait pris l'offense. Bon, bah, puisque c'est comme ça, vous me cassez les pieds, je vous ai apporté à manger, eh ben, je rentre à la maison, là, et puis débrouillez-vous, j'ai tout laissé à l'entrée, là, votre intendant s'en occupe, et bye bye. L'homme que Dieu aurait préparé pour battre Goliath était parti, c'était fini. S'il avait pris l'offense, et il y avait quand même de quoi, faut reconnaître. Imaginez que les responsables de groupes de jeunes vous traitent comme ça. Ce serait quelque chose, hein. Ils auraient des ennuis quand même. Mais vous imaginez la réaction? Je connais ton mauvais cœur, Nathanaël. Vous voyez un peu le travail? Si Charles faisait ça. Hein. Vous imaginez un peu les réactions, mais c'est terrible. Hein. Voilà, ça vous parle là. Et ce serait dommage, parce que c'est là, dans l'Église, que votre destinée commence. Donc, prenez pas l'offense. On fera attention que le responsable de jeunes ne vous massacre pas, quand même. Alors, il parle, le petit David. Il parle à plein de gens. Et du coup, bah, vous savez, le téléphone arabe fonctionne très bien. Et on dit à Saül qu'un jeune homme cherche à en savoir plus sur le champion. Sur le champion d'Israël qui voudra bien s'opposer à Goliath. Alors, il fait appeler David. Vous voyez, ça va vite, hein. Et là, on va voir à quel point la vision de David est différente de celle des soldats d'Israël. Et la clé, elle est là. Goliath, c'est Goliath. C'est toujours le même Goliath pour David que pour Israël. Mais c'est la vision de David qui est différente. Pourquoi est-ce que tout le peuple est immobilisé devant Goliath? Parce qu'il a peur, bien sûr. Et pourquoi David est prêt à se battre? Vous allez voir là, le problème, il est là. Au verset 26 déjà, les premières paroles de David reflètent une vision complètement nouvelle de la situation. Jusqu'ici, vous avez remarqué dans le texte, on nous avait décrit les forces en présence. La scène, le côté militaire, les blocs face à face, le champion philistin surarmé, surprotégé, et puis les autres qui tremblaient de peur en face. Le coup d'œil de David, c'est différent. Mais qui est donc ce philistin? Cet incirconcis, et incirconcis, ça avait du sens dans ce temps-là. Ça veut dire il n'a pas fait d'alliance avec Dieu. Cet homme qui n'a fait aucune alliance avec le Dieu Tout-Puissant, qui est donc ce Philistin? C'est ça que ça voulait dire. Qui ose défier les troupes Bon, ça, c'est une chose, mais les troupes du Dieu vivant, de ceux qui respectent le Dieu vivant. Ah, là, on est dans une autre donne. Hein, c'est plus le Philistin surarmé en face d'une armée qui tremble, mais cet homme qui n'a fait aucune alliance avec Dieu et qui ose défier un peuple qui a fait alliance avec le Dieu vivant. Voyez, David, lui, il n'est pas fasciné par les armes, la force, la taille, tout ça, il le voit évidemment. L'armée qui est derrière, les menaces. D'ailleurs, c'est très clair dans la Bible, ils disent « à la vue de cet homme, tous les hommes reculèrent ». À la vue. Vous savez que la vue, ça nous pose des problèmes. Hein. Quand la Bible dit de ne pas marcher par la vue, mais de marcher par la foi. Lui, il ne voit pas tout ça. Il le voit bien sûr, mais il n'y prête pas attention. Et il voit la position par rapport à Dieu. Et ça m'a fait réfléchir un petit peu parce que quand on a un problème devant nous, n'importe quel genre de Goliath, si on continue à ne voir que les choses visibles, les choses concrètes, on risque effectivement de se décourager. Ça fait peur et on a raison d'avoir peur. Mais si on commence à considérer les choses en voyant la position par rapport à Dieu, c'est complètement différent. Israël était le peuple du Dieu vivant, un Dieu qui s'identifie à son peuple. Ce n'est plus un géant vociférant et invulnérable qui est face à des nains apeurés, mais c'est un peuple auquel son Dieu s'identifie, qui se trouve en face de quelqu'un qui n'a fait aucune alliance avec ce Dieu-là. Ah ! Et là, c'est différent. Pour David, Goliath, c'est simplement un ennemi du Dieu vivant. Autrement dit, pour employer des mots difficiles, David va avoir une vision théocentrique de la situation, c'est-à-dire Dieu au milieu de sa vision, le rapport à Dieu. Et souvent, nous, on a une vision égocentrique. Mon problème est moi, moi, moi. Mon intérêt, mon point de vue, ma façon de voir les choses, ma souffrance, mon souci, ma crainte, etc. Et on oublie de voir les choses, les gens, les épreuves, les circonstances de la vie avec la perspective de Dieu. Et quand on a une vue égocentrique des choses, ben on a peur, c'est normal. Il y a moi, ce pauvre petit bout de chou, là, en face d'un problème énorme. Il y a moi qui n'ai ni les dons, ni les capacités, ni le courage, ni les etc. en face de ce truc énorme qui m'écrase. Il y a moi qui sens, qui ressens tout un tas de choses terribles en face de ce truc qui me fait peur. Enfin, voilà. Et c'est toujours moi, moi, moi. Hein. Alors que si je dis, voilà, ce problème, il est soumis à Dieu. Ce problème, Dieu le connaît. Dieu a déjà préparé quelque chose. Dieu est là. J'ai fait alliance avec Dieu. Quand j'ai pris le baptême, j'ai fait une alliance avec Dieu. Il est avec moi. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi, hein, c'est ce que dit la Bible. Donc voyez, la vision des choses n'est plus la même. Et c'est ce qui va lui permettre de dire à Saül, dès le départ, j'aime bien ce qu'il dit à Saül en arrivant. Le petit David là qui est amené devant le grand roi, rappelez-vous que David était le plus grand, il avait une tête de plus que le peuple. Donc petit David, il était vraiment, vraiment petit en face de Saül. Et qu'est-ce qu'il lui dit, ses premières paroles? Que personne ne se décourage à cause de lui, donc à cause de Goliath. Que personne ne se décourage. Pourquoi il est capable de dire ça, ce bout de chou? Il a quoi, peut-être 15-16 ans? Que personne ne se décourage. Waouh! Il parle à des hommes de guerre, là, hein? Mais il est capable de dire ça parce que lui, il a chopé la vision de Dieu. Il a compris comment les choses marchent. Saül, lui, on le connaît bien, notre pauvre Saül, il revient à la réalité humaine, centré sur le visible et pas sur Dieu. Et il commence par lui dire, tu ne peux pas car tu n'es qu'un. Voilà, tu ne peux pas car tu n'es qu'un enfant. Tu ne peux pas aller vers ce Philistin pour te battre avec lui car tu n'es qu'un jeune garçon. Ah là, les jeunes garçons, hein, vous en avez pour vous là. Hein. Ne laissez pas l'ennemi vous dire, tu ne peux pas parce que tu n'es qu'un jeune garçon. Regardez David. C'est un bon exemple. Ou bien après, Saül va lui dire, lui, là, le grand Goliath. Il se dit, mais attends, il a peut-être pas pigé, là. Hein. Il est jeune, il a rien compris, le petit, là. T'as pas vu, lui? Lui, c'est un homme de guerre. Comme s'il l'avait pas vu. Ça le touche pas. C'est un homme de guerre, oui, bah, et alors? Du coup, il se sent obligé de donner des explications. C'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Oui, bah écoutez, moi je vais vous dire ce que je suis depuis ma jeunesse. Et il va raconter, il prend du temps pour raconter à Saül comment ça se passait avec ses moutons. Je ne sais pas comment a réagi Samuel sur le coup, Saül sur le coup, il devait se dire... il devait se dire... bon, ces histoires de moutons là, c'est bien joli, mais c'est autre chose. Hein. Alors il va lui donner l'explication par le menu. Je faisais paître les troupeaux de mon père. Elle veut partir son histoire. Et j'imagine qu'elle était plus longue que ça. Hein. L'écrivain de la Bible a dû la raccourcir un peu. Et lui raconter comment il s'est comporté. Quand cette bête sauvage venait voler un mouton, un petit agneau, qu'est-ce qu'il faisait? Il courait, cherchait du secours ou... Non, il courait derrière. Mais t'es fou, quoi. Un gamin qui va courir derrière un ours ou un lion. En fait, il ne cherche pas à se vanter, mais il essaie d'expliquer à Saül qu'on peut avoir un regard différent sur les bêtes sauvages qui nous attaquent. On n'est pas obligé de se laisser faire et de laisser croquer son petit agneau sous ses yeux. Il explique très bien comment il faisait. Il explique même comment il saisissait l'ours hein, par en dessous de la tête et comment il le tenait pour sans doute le tuer avec un coup de couteau, j'imagine. L'expérience, c'est important là, mais elle est centrée sur l'action de Dieu et c'est ça que j'ai relevé chez David. Parce qu'on pourrait dire là, il est en train de se vanter. Hein. Moi, les ours, les lions, c'est pas un problème. Attention, il ne dit pas ça. Il dit, le Seigneur qui m'a délivré de la griffe du lion et de la griffe de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. David avait conscience que s'il avait la force et le courage de courir derrière un lion ou un ours pour récupérer son mouton, c'est parce que Dieu le délivrait. Et ça, c'est formidable, à cet âge-là, d'être capable de comprendre et de le dire et de l'expliquer à quelqu'un d'autre, parce qu'il aurait pu se vanter. Vous avez Saül devant vous, ce jeune berger capable de récupérer un mouton de la gueule du lion. C'était pas du tout son esprit. Dit simplement, le Seigneur qui m'a délivré dans ces moments-là, c'est celui qui va me délivrer aussi maintenant. Il a été courageux, il raconte comment il a fait, mais il est conscient que sans la délivrance de Dieu, ça aurait certainement mal tourné. Moi, j'aime pas les ours, j'aime bien de loin, mais c'est quand même des grosses bêtes. Hein. Et là encore, par rapport à ce que j'ai dit la fois dernière, David avait fleuri là où il était planté. Et c'est là que c'est le plus dur de fleurir, parfois. Fleurir là où, où on est planté. Et c'est pour ça quand Jésus nous invite à aller par tout le monde prêcher l'évangile, il dit, vous commencerez par Jérusalem. Et on termine par les extrémités de la terre. La plupart des gens préfèrent commencer par les extrémités de la terre. Là où personne ne les connaît. Mais chez soi, avec les parents, sans parler des frères et sœurs, les copains d'école, c'est chaud, hein. D'abord, les parents, ils voient toujours les choses négativement, ils voient toujours vos défauts, etc. Attention, les parents. Hein. Faut qu'on fasse des efforts pour aussi avoir un bon coup d'œil sur les qualités des enfants. C'est bien. Parce qu'ils en ont beaucoup et on a toujours tendance à voir le petit point noir sur la page blanche. Hein. Apparemment, David surveillait son petit troupeau. Alors, n'attendons pas d'être entrés dans notre destinée. La Bible dit, ce que ta main trouve à faire, fais-le. David aurait pu se contenter du train-train, jouer tranquillement sa musique en gardant ses moutons, déplorer les pertes quand les animaux sauvages venaient manger chez lui, puis c'est tout. Il n'était pas obligé de courir derrière. Personne ne lui demandait de courir derrière. Moi, je ne l'aurais pas fait, d'ailleurs. Mais sans le savoir, il n'était pas conscient de ça. Sans le savoir, il a exercé sa force physique. Et vous imaginez que là, il devait être vachement fort, le petit David. Il devait être bien musclé parce qu'il s'était exercé. C'était un homme actif. Mais il a aussi exercé ses talents musicaux et poétiques. Sinon, on n'aurait pas tous ces psaumes là dans la Bible. Hein. Il s'est exercé, il n'était pas passif, il était hyper actif. Et tout lui a servi dans sa destinée. Tout ce qu'il a fait pendant cette période avec ses moutons, alors que tout le monde le méprisait et considérait que le petit garde les moutons, c'était un peu ça, oh, va garder tes moutons, toi. Pendant cette période-là, il a tout mis à profit. Oh, il ne s'est pas attardé. Oui, moi je suis qu'un pauvre berger. Et puis voilà, j'arriverai à rien dans la vie parce que personne ne m'aime, parce que tout le monde me méprise. On m'envoie toujours garder les moutons. Et puis ceci, et puis cela. Non, il a pris ce temps. Eh ben, je suis à part, je suis avec mes moutons. Eh ben, je joue de la musique, je compose des chants, je défends mes moutons. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, je m'exerce à la fronde. Alors, j'ai fait quelques recherches. Les Benjamites, c'était la tribu d'à côté. Vous avez Judas et Benjamin. Les Benjamites étaient réputés pour être des, je sais pas comment on appelle ça, des lanceurs de fronde ou je sais pas quoi, des frondeurs, extrêmement habiles. Alors, le verset exact, où est-ce que je l'ai, dit qu'ils étaient tellement habiles qu'il pouvait viser un cheveu avec leur fronde et toucher ce cheveu. C'est ce que dit la Bible. Donc oui, ils étaient doués. Hein. Sachant que la pierre d'une fronde peut se déplacer à environ 130 km/h. Je ne sais pas ce qu'il en est des balles de tennis. Bon, donc ce n'est pas impossible que ça puisse monter au bien au-dessus de 130. Voilà. Donc ça vous donne une idée, quand toute la journée ou tout l'après-midi, quand les moutons se reposaient un petit peu, une fois, deux fois, trois fois, voilà, ils s'exerçaient. Alors vous savez, la période entre 10 ans et 20 ans, c'est beaucoup plus de 10 ans, c'est plus près de 50 ans hein, que de 10 ans, ça semble long, ça semble extrêmement long. Et bien moi je dis, mettez cette période à profit, les jeunes, pour vous exercer à tout ce que vous pouvez vous exercer de bon. Même si les grands frères et les grandes sœurs trouvent que ça ne fait rien. Exercez-vous. Soyez actifs. Soyez surtout pas passifs. Faites comme David. Saül finit par s'incliner devant la vision de David. Est-ce qu'il est convaincu quand il dit « Va et que le Seigneur soit avec toi » Connaissant Saül, on ne sait pas trop. Hein. Je ne me prononcerai pas. En tout cas, il abandonne. Il dit, bon, il est buté, il veut absolument y aller. Il a l'air d'avoir un peu d'expérience. Bon, on verra bien. Il s'incline. Il a compris son insistance sur ces mots importants, le Seigneur qui m'a délivré. C'est pour ça qu'il va lui dire, ben écoute, que le Seigneur soit avec toi. Super. Mais ceci étant, Saül reste toujours notre brave Saül. Il va chercher à équiper David. Bon, alors mon petit maintenant... Voici mon armure, mon casque, mon épée. J'aurais voulu voir la scène. Je ne peux pas me retenir, je prendrais Nathanaël si j'avais à y mimer les choses. Puis on lui met l'armure de Rodrigue. Voilà. Voilà. Vous imaginez? Imaginez dans votre tête un petit peu Nathanaël avec l'armure de Rodrigue. Aïe, aïe. Aïe, le pauvre Nathanaël, qu'est-ce qui deviendrait là-dessous? Mais pourtant, Saül l'a fait. Non, mais attendez, où est-ce qu'il en était, Saül? Mais il l'a fait. Et il lui a mis tout ça sur lui. Le casque encore, ça passerait peut-être. La cuirasse, l'épée, le résultat. Il ne pouvait plus bouger. Et ça nous fait réfléchir à quelque chose. Attention à ne pas mettre sur la jeune génération. Je vous avais dit la semaine dernière que les gens de Master Commission m'ont pris la moitié du message. Donc, il y a quelques allusions qui restent, mais le reste, vous l'avez entendu dimanche dernier. Attention de ne pas mettre sur la jeune génération une armure qui ne lui convient pas. Qui ne convient pas à la personne. Qui ne convient pas au genre de combat. Parce qu'à la limite, il aurait été recouvert de cette armure devant une armée qui tire avec des flèches. Bon, il était bien protégé, hein. Voilà. Mais dans un combat de personne à personne comme ça, vous imaginez, il ne pouvait même pas bouger. Donc attention de ne pas mettre une armure qui ne convient pas à la personne, à sa taille, à sa maturité, au genre de combat qu'elle fait, à la situation à laquelle elle est confrontée. David n'était pas entraîné à porter une armure. Ce combat de champion devait demander de l'agilité. Parce que l'autre, il pouvait lancer sa lance, certainement très efficacement. Et sinon, il se faisait écraser par Goliath. Alors, on peut se poser la question, est-ce que nos façons de faire sont adaptées au combat que nos jeunes affrontent? Nos jeunes et les moins jeunes aussi. Faut-il développer des nouvelles stratégies de combat et de prière? Et je crois qu'on a commencé avec la prière pour les différents soucis des jeunes. Mariage, situation, etc. Je crois que c'est une stratégie. Mais on en a une qui est très, très importante à notre époque et qu'il faut prendre au sérieux. Je suis désolée d'en parler ici, mais je pense que c'est important. Il y a le problème des addictions. Les addictions, c'est un combat singulier, c'est un combat insidieux auquel les jeunes et les moins jeunes doivent faire face. Ce sont des géants. Ce sont des géants qui attaquent. Ce n'est pas des petits rigolos. C'est des géants entraînés, expérimentés, financés, très bien financés, qui attaquent en combat singulier les plus vulnérables, au niveau de l'âge, les doutes, les craintes, l'ennui parfois, la déprime. Alors il y a toutes sortes d'addictions. Je ne parlerai que de la pornographie, qui est une forme nouvelle de géant, qui avance comme Goliath. Vous avez vu comment il avance, Goliath? Ah, j'aime pas ça. Comment il est décrit, je ne sais plus à quel endroit, et il est décrit comme faisant des petits pas. Vous avez l'impression d'un char d'assaut qui avance tranquillement, mais qui va tout casser. Et c'est ça. La pornographie, c'est comme ça. Ce géant énorme qui avance, qui est hyper financé, hyper truqué, mais ça ne fait rien. Il provoque et il sollicite sans cesse, sans cesse. Vous ne pouvez plus allumer votre iPad tranquille, vous ne pouvez plus regarder votre ordinateur tranquille. Les psychiatres, même non chrétiens, commencent à trouver que c'est la folie, c'est excessif. J'ai entendu des interviews remarquables là-dessus, de gens qui ne sont absolument pas croyants. Et nos jeunes, et nos moins jeunes, doivent faire face à ce genre de choses. Comment faire? Ce sont des Goliaths qui avancent tranquillement. Mais sûrement. Alors, est-ce qu'on va leur mettre une armure? Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on peut prier que nos jeunes développent leur propre équipement de combat. Qu'ils développent leur propre équipement de combat. Leur propre fronde au quotidien. Soutenons, prions, parce que c'est un problème maintenant qui devient... Enfin, je tiens mes calculs, mes chiffres de la radio, de médecins qui sont passés à la radio, etc. On commence à arriver à des chiffres faramineux. C'est normal. C'est un Goliath qui avance tranquillement. Donc, prions pour qu'ils développent leur propre équipement de combat, leur propre fronde, qu'ils choisissent leurs pierres. Ceci n'empêche pas les jeunes d'écouter, de retenir ce qui est bon, mais ne leur forçons pas nos armures sur le dos, parce qu'on risque de les immobiliser. C'est vrai dans tous les domaines. Les jeunes, c'est sûr qu'ils feront des progrès énormes s'ils savent écouter, s'ils savent écouter les conseils, s'ils savent retenir tout ce qui est bon et juste dans ce qu'on leur dit. C'est sûr, s'ils sont enseignables. Vous savez, la principale qualité qui nous fait progresser dans la vie, je peux le dire maintenant, 60, plus de 60 ans, c'est l'enseignabilité. J'ai longtemps cru que c'était l'humilité, mais ça va de pair. C'est l'enseignabilité. Quelqu'un qui est très, très intelligent, mais qui n'est absolument pas enseignable, il n'ira pas loin. Puis il fera suer tout le monde. Par contre, quelqu'un qui est moyennement intelligent, pas forcément très doué, pas très talentueux, mais qui est très enseignable, qui est capable d'apprendre de l'autre, waouh, il fera du chemin. Il ira même très très loin, beaucoup plus loin que l'autre. Si vous prenez des jumeaux, admettons, j'espère que ça n'a pas été fait, un super intelligent puis un moyen. Mais le super intelligent pas enseignable et le moyen enseignable, c'est sûrement celui-là qui dépassera l'autre. Parce que être enseignable, ça veut dire que quand les gens me disent quelque chose qui a du sens, bien sûr, quelque chose de bien, je vais essayer de le faire, je vais essayer d'apprendre. Je vais, ah ben il fait ça comme ça, mais dis donc, on gagne du temps, c'est mieux, c'est plus efficace, je fais. Ah, le prof, il a dit d'apprendre ses verbes irréguliers de cette manière-là, tiens, ben, je vais faire comme il a dit. Même si le prof, je ne l'aime pas trop, les profs ne sont pas toujours drôles. Charles Cosme n'est pas là, on peut dire ce qu'on veut. Non, mais il y a Ruben, et ah, ouh. Voilà, les profs ne sont pas toujours drôles. Mais ils vous donnent quelquefois des bonnes recettes pour résoudre les problèmes. Hein? Donc, si je suis enseignable, et que même si je n'aime pas le prof, je dis, ah ben tiens, il m'a conseillé de faire comme ça, je vais le faire. Il m'a conseillé d'apprendre tel et tel type de leçon comme ça, je vais le faire. De faire tel type d'exercice de cette façon-là, je vais le faire. Ces gens-là, ils feront du chemin, mais ils feront du chemin. Alors que le gars hyper intelligent, qui a une mémoire du tonnerre, qui peut lire ses verbes irréguliers une fois et les savoir par cœur, c'est pas sûr qu'il fera son chemin s'il n'est pas enseignable. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Je crois que je me suis rendu clair. Donc c'est important. Cherchez à être enseignable et retenez ce qui est bon. Ne retenez pas ce qui est mauvais, parce que les adultes aussi disent des choses stupides. Même moi, ça peut m'arriver. Ça doit être très rare, mais... David va faire ce à quoi il s'est entraîné pendant des années. Avec sa fronde, il n'est pas présomptueux par contre. Vous avez remarqué, vous n'êtes pas posé la question, pourquoi il en prend 5 des pierres? Ben, il n'était pas très sûr de l'avoir du premier coup. Il n'était pas vantard, il n'était pas présomptueux. Il s'est dit, bon, à tout hasard, il faut mieux en prendre 5, hein, on ne sait jamais. Je vous fais remarquer aussi qu'il les a choisis, ces pierres. Vous savez, parfois on a l'impression que c'est un peu le coup de magie, là. Il prend n'importe quelle pierre et waouh, il a tué Goliath. Non, 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 non. Il avait du savoir-faire. Il avait de l'expérience. Il avait du savoir-faire. Il les a choisis, ces pierres. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des ricochets sur l'eau. J'arrivais jamais à les faire aussi bien que ma sœur. Parce qu'elle, elle choisissait ses cailloux. Moi, j'étais petite, je ne savais pas. Je ne comprenais pas pourquoi avec elle, c'était... comme ça, 5-6 fois. Et puis moi, mes cailloux faisaient plouf. Ben oui, elle les choisissait, ces pierres. Elle ne me le disait pas, évidemment. Bon, pauvre de moi. Et donc, pour la fronde, il a choisi ses pierres. Il n'a pas fait non plus au hasard. Vous savez, obéir à Dieu, être aidé par Dieu, ça ne veut pas dire je fais n'importe quoi et Dieu fait le reste. Non, il y a un côté où on réfléchit, on choisit, on fait les choses correctement. C'est vrai que Dieu fait des miracles, mais il ne fera pas de toi un évangéliste si tu témoignes jamais, ni un vrai prophète si tu lis pas ta Bible. Prophète peut-être, mais pas un vrai. La fronde demande de l'expérience et de l'exercice. C'est pas n'importe quoi. Et même si le rapport de force était choquant, il n'empêche que David avait appris à fleurir là où il était planté. Il avait fait des heures d'exercice, des essais avec différents styles de pierres. Il avait eu toutes sortes d'occasions de mettre en pratique. Il avait fait face à des ennemis plus forts que lui. Et il a eu des responsabilités envers les autres, ses parents, sa famille et ses moutons. Donc il ne faut pas se servir de l'exemple de David et Goliath comme d'un truc magique. Dieu peut bien sûr faire des choses étranges et vous permettre un jour de faire quelque chose que vous n'avez jamais préparé. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas la règle. C'est l'exception. Le plus souvent, il prépare. Vous avez remarqué, on en a parlé déjà beaucoup au début. Il prépare ses enfants parce que lui, il connaît notre avenir et notre destinée. Et quand vous croyez perdre votre temps à préparer quelque chose, lui, il est en train de préparer votre avenir et votre destinée. Alors, je pense que l'affrontement, ce sera pour la prochaine fois, comme dans les films, hein. Je vous dis juste le verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, précédé de l'homme. J'aime bien le peu à peu. Le Philistin s'approcha peu à peu et on saura la suite la semaine prochaine.